On investit dans nos réseaux, on investit beaucoup dans l'intelligence de ces réseaux. Donc, on parle de finalement d'un nouveau cœur de réseau qu'on est en train de déployer sur nos différents pays.
Bonjour Laurent Le Boucher.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes CTO du groupe Orange, c'est-à-dire Chief Technology Officer. Ravi de vous accueillir dans Monde Numérique pour ce premier rendez-vous en partenariat avec Orange, qui va nous permettre d'examiner en profondeur les grandes transformations du monde des télécoms à l'ère du numérique. Voilà, parce qu'il se passe beaucoup de choses, c'est un secteur en pleine mutation, avec des transformations en profondeur, et qui, évidemment, indirectement, nous concerne tous, nous, utilisateurs des réseaux télécoms. Donc, on va voir comment Orange aborde cette transformation. Et pour ce premier numéro, on va commencer avec un concept qui est vraiment au cœur de votre activité aujourd'hui, c'est la notion de plateformisation. Et vous avez un mot chez Orange, vous parlez de telco as a platform. Donc telco, c'est vous, c'est opérateur télécom. Telco as a platform, en fait, ça veut dire quoi exactement, Laurent Le Boucher ?
Oui, Jérôme, effectivement, c'est une très bonne question. Ça peut paraître un peu mystérieux. Telco as a platform, c'est un concept, mais c'est aussi un programme stratégique et structurant pour Orange, qui s'appuie sur une vision. Et cette vision, c'est que pendant longtemps, les réseaux, la connectivité, étaient un peu invisibles. On l'utilisait, elle est partout. Mais de plus en plus, grâce à la technologie, grâce aux évolutions comme le cloud computing, grâce à l'intelligence artificielle, grâce au edge computing, on voit qu'il y a des usages nouveaux qui sont en train d'arriver, qui vont demander que le réseau soit beaucoup plus exposé aux développeurs, pour que les développeurs d'applications métiers, dans différents domaines, des domaines qui touchent tous les utilisateurs, comme vous et moi, mais aussi des utilisateurs dans les domaines industriels, par exemple, utilisent le réseau d'une certaine façon, avec une certaine qualité de service, avec certaines propriétés, pour faire des applications extrêmement riches. Et d'une certaine façon, c'est un petit peu comme si on prolonge les capacités du cloud computing pour construire une plateforme qui intègre les possibilités des réseaux.
Ouais, c'est-à-dire que les réseaux ne sont pas ce qu'on appelle des dumb pipes, des tuyaux idiots.
Exactement.
Il y a de l'intelligence là-dedans et on peut leur faire faire plein de choses.
Il y a plein de propriétés. On investit dans nos réseaux. On investit beaucoup dans l'intelligence de ces réseaux. Donc, on parle finalement d'un nouveau cœur de réseau qu'on est en train de déployer sur nos différents pays. Et ce nouveau cœur va permettre de faire des choses véritablement très innovantes. Et en général, avec des partenaires. Donc, on le fera pas tout seul, on le fera beaucoup avec des partenaires. Donc, c'est aussi un modèle de co-innovation, d'open innovation qu'on va essayer de construire.
Alors, au-delà du concept, ça change quoi ? Ça va changer quoi concrètement pour les utilisateurs ?
Pour les utilisateurs, il faut déjà considérer qu'il y a plusieurs types d'utilisateurs. Il y a vous et moi.
Oui, il y a le grand public, c'est ce qu'on appelle
le public,
B2C,
tout à fait.
Et puis B2B,
il y a les entreprises, mais les utilisateurs dans les entreprises, et là, il y a différentes verticales. Et je dirais, il y a les développeurs. Les développeurs sur les différents domaines. Voilà. Donc, on va prendre deux exemples. On va prendre un exemple plutôt grand public l'un de mes proches, qui a été hacké récemment au travers de... Alors, la méthode est assez classique. C'est... le hacker utilise du social engineering, ouais. Différentes méthodes pour récupérer quelques informations essentielles. Votre date de naissance, potentiellement le nom de la rue dans laquelle vous avez grandi. Et sur la base de ces informations, on va ensuite appeler le call center de votre opérateur et se faire passer pour vous en expliquant que son smartphone, il l'a perdu et que il faut changer de carte SIM. Donc, il a une nouvelle carte SIM et s'il passe les barrières d'identification, alors le numéro de téléphone est associé à la nouvelle carte SIM. Que se passe-t-il pendant ce temps-là ? De façon, sans même que vous en aperceviez sur votre smartphone, votre smartphone ne fonctionne plus. Ouais. Et lui a pris votre identité, votre numéro de téléphone, et peut se connecter, par exemple, à votre banque.
Ouais.
Et il a un moyen d'authentification qui lui permet potentiellement de réaliser des opérations pour votre compte. Donc, effectivement, c'est une fraude qui est assez répandue, qui est assez dangereuse. Et on peut s'en prémunir, on peut se protéger. Et donc, Une possibilité, c'est d'exposer une API qu'on appelle SIMSwap, pour changement de carte SIM, qui permet à une banque, dans le cadre du parcours digital, de vérifier que la carte SIM n'a pas été changée depuis quelques heures. Mmh. Donc, s'il y a une transaction importante, avant de faire cette transaction, on appelle le code de l'application bancaire, va appeler cette API et faire cette vérification. Et si la réponse est positive, alors, à ce moment-là, ça ne veut pas forcément dire que le compte est hacké, mais ça peut être une alerte. Et donc, dans ce cas-là, on prend les précautions. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple, en fait, qui montre que on peut utiliser le réseau pour des cas d'usage qui touchent tout le monde.
Donc ça, concrètement, ça permettrait de faire face à quel type d'arnaque?
Eh bien, ça permettrait, en fait, d'éviter les situations où, au moment où la banque demande une double authentification au travers du numéro de mobile et en envoyant un SMS, d'éviter que d'envoyer le SMS au hacker et donc de s'assurer que votre numéro de mobile est toujours en votre possession.
Et donc ça, c'est au niveau du réseau que ça se passe.
Absolument.
C'est facile à faire?
Alors, c'est assez facile. On a déjà exposé cette API en Espagne.
Ouais.
Et donc, elle est utilisable aujourd'hui. On l'utilise aussi en France. Et on le fait aussi avec d'autres opérateurs, à la fois en Espagne et en France.
Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant?
Alors, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut aligner tous les opérateurs. Il faut que tous les opérateurs d'un même pays, sur un cas d'usage comme celui-là, exposent la même API pour que la banque puisse, dans son application digitale, protéger tous ses clients.
D'accord. Donc, en fait, c'est la banque qui implémente cette solution technique grâce à votre API.
La banque va développer son application, son application mobile, et l'application mobile de la banque va utiliser une API exposée par les opérateurs.
Alors ça, c'est le premier exemple. Un deuxième exemple des applications possibles avec cette plateformisation?
Alors, un deuxième exemple, c'est celui des réseaux privés mobiles virtuels. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau privé mobile virtuel? C'est un réseau mobile qu'on va construire à la demande, de façon complètement automatisée, pour répondre à des besoins spécifiques d'une entreprise, d'une industrie, sur un campus industriel, par exemple des journalistes en déplacement,
pour un événement sportif,
sur un événement sportif,
ouais.
Pour des forces de police aussi qui ont besoin d'avoir des moyens de communication, par exemple en push to talk. Donc c'est pour répondre à des besoins spécifiques dans différentes situations où on a des exigences de sécurité. Donc on veut éviter, en fait, on veut assurer que le trafic est bien isolé et protégé des autres trafics. Mais aussi pour des raisons de qualité de service, on a besoin de s'assurer, par exemple, que la latence est garantie. La latence, c'est le temps.
La vitesse de réaction.
La vitesse de réaction, le temps de réaction de bout en bout. Si je prends l'exemple d'une usine, sur une usine, l'enjeu, c'est de pouvoir permettre à des AGV, donc des petits véhicules autonomes, de se déplacer dans l'usine, d'avoir des chaînes de production qui sont très configurables, avec des ateliers qu'on peut déplacer si besoin, si on veut par exemple changer de produit, le faire de façon très simple. Lorsque tout est câblé, ça prend du temps de reconfigurer l'usine. Si on remplace tout le câblage par des solutions à base de réseaux mobiles, dans ce cas-là, ça devient beaucoup plus simple, avec des caractéristiques également de latence qui deviennent essentielles. Il faut être capable de garantir 10 millisecondes de bout en bout ou moins. Si on veut contrôler une chaîne de production, la qualité en sortie d'une chaîne de production avec des caméras, par exemple, il faut être capable d'arrêter ou bien de trier des déchets, le faire très rapidement. Et le nombre de millisecondes devient complètement essentiel. Voilà.
D'accord. Ça, c'est permis notamment par la 5G.
Alors, c'est permis par la 5G, c'est permis par les évolutions du réseau 5G. On a besoin pour ça de pouvoir introduire des mécanismes nouveaux. On appelle cela la 5G standalone, mm-hmm. et la possibilité de découper le réseau 5G en petits sous-réseaux qu'on appelle des slices, des tranches, qui vont vraiment être concentrées sur les exigences spécifiques du cas d'usage. Mais ce qu'on veut surtout, ce qui est très important, c'est que la construction, le déploiement de ces solutions-là soit complètement automatisé, soit réalisable de façon extrêmement simple, as a service, et finalement appelable par des API et à la demande.
Ce qui veut dire, Laurent Leboucher, que, je sais pas, une usine, grosse usine qui a besoin de mettre ça en place, du jour au lendemain, elle vous appelle, et vous, il y a quelqu'un sur son ordinateur qui peut mettre ça en place.
Alors, elle n'a même pas besoin de m'appeler, parce que elle peut le faire directement depuis son application de gestion de son usine. Son application de gestion de son usine a la possibilité de venir configurer, de rajouter un slice si c'est nécessaire, de pouvoir configurer ses différents devices, de pouvoir aussi utiliser les possibilités de géolocalisation dans l'usine. Donc, il y a plein de choses en fait qui sont possibles grâce à ces nouveaux réseaux.
Ouais. Et tout ça, ça a un coût, j'imagine. Et c'est là où, effectivement, on rejoint ce qu'on disait au début, ça devient un service monétisable.
Alors, bien sûr, c'est un service monétisable. C'est un service, en fait, qui crée de la valeur nouvelle pour nos clients. Et cette valeur, en fait, est également pour nous aussi un moyen de générer aussi de nouveaux revenus.
Bien sûr. Techniquement, comment ça se passe? Est-ce que ça pose de nouveaux problèmes techniques? Est-ce que tous les services sont interopérables facilement les uns avec les autres?
Alors, il y a effectivement un enjeu d'interopérabilité et il y a un enjeu de scalabilité. Il faut qu'on arrive à...
Scalabilité, la mise en échelle, la montée.
Oui. Et c'est un enjeu industriel qui concerne tous les opérateurs et d'une certaine façon, l'union fait la force. On a besoin de travailler ensemble pour standardiser certaines de ces API et faire en sorte, en fait, qu'elles deviennent quasiment universelles, qu'elles deviennent très connues pour l'ensemble des développeurs, des différents domaines industriels, des différents domaines également sur d'autres domaines comme la santé, sur des domaines comme le gaming, sur différents domaines. Il faut que les API des opérateurs deviennent un peu une sorte de langue universelle.
D'où l'accord que vous aviez annoncé il y a un an, je crois, au Mobile World Congress, avec les autres opérateurs, d'autres pays même.
Alors effectivement, on s'inscrit complètement dans l'initiative Open Gateway de la GSMA. Donc on est tous très concentrés, très focalisés en fait pour réaliser des cas d'usage aujourd'hui. L'an dernier, on annonçait le mouvement et cette année, on commence à commercialiser sur les premières API. On a aussi un autre projet qui est important, c'est le projet de la Linux Foundation, le projet Camara, qui est un peu le pendant d'Open Gateway de la GSMA et qui rentre dans le détail de l'implémentation de chacune de ces API pour les rendre utilisables, consommables effectivement par des développeurs.
D'accord. Alors ces fameux développeurs, quand on dit développeurs, ça peut être développeurs d'applications pour nos smartphones, le grand public, mais aussi des développeurs dans les entreprises, les applications typiquement industrielles comme celles dont vous parliez il y a un instant. Vous créez une sorte de plateforme ouverte pour les développeurs. Enfin, ouverte, pas tout à fait. Hein. J'imagine que vous livrez pas non plus tous vos secrets et puis c'est pas open
bien sûr,
bar.
Bien sûr.
Comment est-ce qu'ils réagissent ces développeurs? Ils sont voilà, ça fait un moment que c'est déjà en place. Est-ce qu'ils répondent? Est-ce qu'ils sont au rendez-vous?
Alors, on a effectivement déjà depuis un certain temps exposé certaines de ces API. Même avant l'initiative Open Gateway, on a une plateforme qu'on appelle Orange Developer. Cette plateforme est utilisée par plusieurs milliers de développeurs déjà aujourd'hui sur des domaines comme le messaging, comme le career billing. Également, on a commencé à travailler un peu sur les sujets relatifs à l'identité. On se rapproche un petit peu de ce que je disais précédemment. Mais en fait, on veut vraiment changer d'échelle maintenant. On veut vraiment aller beaucoup plus loin. Et pour ça, on va avoir toujours besoin de notre plateforme Orange Developer, mais on pense qu'on aura besoin aussi, et on va travailler étroitement avec d'autres partenaires. On va travailler très étroitement, on va continuer de travailler avec des agrégateurs qui vont être un peu plus spécialisés sur certains sujets, comme par exemple sur les solutions de détection de la fraude. Mais on va travailler aussi beaucoup avec les hyperscalers, les grandes plateformes
donc les
cloud,
big tech américaines.
Les big tech, qui aujourd'hui ont des audiences développeurs qui sont très larges. On parle pas de milliers, mais on parle de millions de développeurs. Et donc nous, on souhaite véritablement entrer un peu en symbiose et faire en sorte que nos API et nos cas d'usage soient utilisables depuis ces grandes plateformes pour utiliser tout le potentiel de nos réseaux et en complément nous permettent aussi d'adresser des cas d'usage qui ne sont pas que de la connectivité pure mais adressent aussi de la connectivité, du cloud computing et de l'intelligence artificielle et du edge computing. Et donc d'avoir la possibilité en fait de jouer véritablement sur des cas d'usage où le potentiel de valeur est très important.
Et même question, comment est-ce qu'ils sont sensibles à cet appel, les hyperscalers, comme vous dites?
Alors, les premiers signaux que l'on a, montrent qu'il y a une véritable appétence à travailler ensemble. Nous avons commencé à travailler étroitement avec certains d'entre eux, comme Microsoft et AWS, par exemple. Et on veut aller beaucoup plus loin. Et donc, on n'est absolument pas du tout exclusif. On veut travailler avec tous les hyperscalers. Et on veut travailler aussi avec les agrégateurs. Je mentionnerai l'exemple de Vonage, mais aussi d'Infobip, avec qui on travaille. Et il y en a d'autres. Et on va continuer, en fait.
Professionnel.
Alors, c'est sur différents domaines. Les agrégateurs, en fait, ont la possibilité d'agréger les API de différents opérateurs ensemble. Par exemple, lorsqu'un développeur d'une grande plateforme de jeu, comme Epic Games, a besoin d'utiliser une API de qualité à Deadland pour garantir que l'expérience de jeu va être excellente avec un temps de latence très court, il va souhaiter que ça puisse fonctionner sur tous les opérateurs d'un même pays, sur une même géographie. Et l'agrégateur va lui offrir en fait cette capacité.
D'accord, voilà. Oui.
Donc on a besoin de travailler avec des agrégateurs, on a besoin aussi de faire en sorte que nos API et nos assets puissent être utilisables aussi sur les marketplaces des hyperscalers qui ont la possibilité d'attirer beaucoup de développeurs et de combiner des assets telco, comme ceux que je viens de décrire, mais aussi des assets de cloud computing, des assets d'intelligence artificielle, d'utiliser aussi au travers de leur plateforme nos possibilités de edge computing pour offrir en fait une toolbox qui devient extrêmement pratique.
Allez, encore une question, Laurent Leboucher, on parle donc d'un haut niveau de technicité, d'intelligence même, et il y a un mot que vous n'avez pas cité, pourtant c'est le mot à la mode, c'est l'intelligence artificielle. Il y a de l'IA là-dedans ?
Alors je l'ai un petit peu cité quand même, mais je dirais que l'intelligence artificielle, on va la trouver à différents endroits. Déjà, quand on va développer certains des cas d'usage que je citais, on va combiner à la fois de la connectivité à la demande, du edge computing et de l'intelligence artificielle. Si je reprends l'exemple de l'usine avec des caméras et de la computer vision, on aura besoin d'intelligence artificielle. Donc, on combinera à la fois des assets réseau et du cloud, du edge et de l'intelligence artificielle pour, par exemple, détecter des défauts sur une chaîne de production. Mais il y a aussi de l'intelligence artificielle enfouie qui est dans le réseau et qui va nous aider à automatiser au maximum l'exploitation, le management du réseau. Parce que vous imaginez bien que pour réaliser cette plateforme, on va avoir besoin que le réseau soit essentiellement automatisé au maximum, pour offrir toutes ces possibilités à la demande. À la demande, ça veut dire que derrière, quand on construit un réseau à la demande, derrière, c'est automatique. Pour le réaliser et pour s'assurer que la qualité est maintenue dans le temps, l'intelligence artificielle prend un très grand rôle dans l'exploitation du réseau.
Merci Laurent Leboucher, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et je rappelle que vous êtes le CTO, le Chief Technology Officer du groupe Orange.
Merci Jérôme.